Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. La 5Z des Cyprinettes vous guette. Aujourd'hui, dans notre culotte, retrouvez les belles histoires de Tata Chloé qui va bientôt devenir incollable sur les dates. Et souvenez-vous, lors des précédentes émissions, plus précisément la seconde sur les squats non mixtes et la dernière avec l'extrait de Paul de Béatrice Preciado, des termes ont été employés comme cisgenre, transgenre. Eh bien Elsa, fraîchement arrivée de Toulouse, est là avec nous pour éclairer nos lanternes sur le sujet. Salut Elsa.
Bonjour tout le monde.
Mais avant de commencer dans le vif du sujet, nous souhaitons faire un petit clin d'œil, ça se voit pas à la radio mais ouais, yeah, ArcelorMittal qui nous a fait un petit clin d'œil aussi de son côté dans son émission le mois dernier. Et puis vu qu'on est tellement mignonne dans les Cyprinettes, on ne peut pas s'empêcher de bisouter les collègues.
En tout cas, allez-y écouter cette émission d'ArcelorMittal, ça vaut le coup.
Voilà, donc la dédicace est faite. Maintenant, place à Tata Chloé.
Et oui, c'est moi, Tata Chloé. Donc, salut à toutes et à vous. Salut Elsa, salut Émilie, salut Mimi, salut Marie.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, dans les belles histoires de Tata Chloé, je vais vous proposer une rapide chronologie du mouvement trans. Mais juste avant de commencer, je fais un très rapide aparté. Il paraît qu'on a des auditeurs et des auditrices. Je te jure, on nous écoute.
Ah bon ?
On parle pas dans le vent. Et même des enfants nous écoutent. Alors du coup, j'ai un retour comme quoi, de temps en temps, on utilise un langage plutôt vulgaire, des gros mots, quoi. Donc moi, ni une ni deux, je me suis dit qu'il ne fallait pas perdre cette tranche de notre public. Les enfants, c'est trop génial de savoir que tous les âges se sentent concernés par nos questionnements et nos luttes. Mais bon, je n'ai pas non plus envie de perdre un peu notre spontanéité et nous lâcher. Donc du coup, je propose un petit jeu. J'ai ramené mon pouette-pouette. D'un jeu que je nommerai pas, et je le confie à Elsa. Alors Elsa, si tu l'acceptes pour cette chronologie, je te nomme senseuse. Je compte sur toi pour m'éviter de déraper à tous les niveaux. Voilà.
Je suis une merveilleuse police politique.
Ouais,
pas.
Super.
Pouette pouette, c'est parti pour
les belles Tata histoires Chloé. De Tata
ah,
Chloé.
Mais
pourquoi Les belles histoires de Tata Chloé. Donc pour écrire cette rapide chronologie, je suis allée sur le site L'Ordre des mots, qui propose une timeline trans historique vraiment super bien faite. Je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle est très très détaillée et que je vais en citer que quelques dates qui, à moi, me semblent clés, malgré ma connaissance très récente, on va dire, de ces questions-là.
C'est parti, je te surveille.
Donc première date que je cite, attention, 1975, le protocole établi autour d'une pratique initiée plus de 20 ans auparavant par un psychiatre, Jean Breton, un endocrinologue, Jean-Pierre Luton, et un chirurgien, Pierre Benzé. Ce protocole guide l'évaluation d'une demande de THC, traitement hormono-chirurgical. Il suggère les bilans à pratiquer et recommande une pratique collégiale, mais il n'a aucune base légale et il n'est pas pensé pour être définitif. Pourtant, il semble reconnu depuis 1975 par la Sécurité sociale, le Conseil de l'Ordre des médecins et des tribunaux. Et tous ces jolis gens, ils l'ont suivi pendant des décennies et certains continuent à le suivre encore. Deuxième date, 1980, bienvenue dans le DSM-3. C'est quoi ça, le DSM-3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, soit en français le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par la Société américaine de psychiatrie, l'APA. Donc dans ce manuel dit de référence qui classifie et catégorise des critères diagnostiques et des recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques, attention, 1980, la transsexualité rentre dans cette classification, alors que l'homosexualité en sort dès 1973. Sympa. Juin 1989, création d'ACT UP à Paris. Donc fondée par Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc Coulavin en suivant le modèle américain, né 2 ans plus tôt. ACT UP Paris est une association qui est issue de la communauté homosexuelle, veillant à défendre toutes les populations touchées par le sida. C'est une association de personnes touchées par le VIH qui voient dans le sida avant tout une question politique. Et du coup, je pense qu'Elsa nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, il me semble.
C'est prévu.
Voilà. Attention, 4 juillet 1989, une circulaire, trois petits points, illégale. Une circulaire interne au ministère de la Santé établit en 1989 que seules les personnes entrant dans le protocole établi par les équipes médicales dites spécialisées et gérées par les hôpitaux publics pourront être remboursées des frais médicaux relatifs à leur transition. Cette circulaire ministérielle, on rentre dans l'espionnage ou je ne sais pas trop, elle reste secrète jusqu'en 2004. Elle a été suivie depuis 1989, on le rappelle. On continue. Deuxième, 1994, DSM, le retour DSM-4. La quatrième version du manuel fait un petit peu évoluer la définition des troubles de l'identité sexuelle et renomme le concept de transsexualité en celui de dysphorie de genre, mettant l'accent sur la souffrance transsexuelle. Voilà, ça commence. 6 décembre 1997, la première existence. À l'initiative de l'association du syndrome de Benjamin, se crée la première marche pour les personnes trans et celles qui les soutiennent. Cette marche, intitulée « Existence », rassembla pour la première édition une soixantaine de personnes du parvis des droits de l'homme à la place de l'Alma. On avance un petit peu, de 97, on fait un saut jusqu'à nos années, on y arrive, 2002. Création de la commission trans d'Act Up Paris. Donc, pour rappel, Act Up Paris s'est créé en 89. On a attendu 2002 pour la création de cette commission. La commission trans d'Act Up Paris a été créée par une femme trans séropositive, Hélène Azera, et un garçon trans séronègue, Vince Issei, j'espère bien le dire. Toutes deux membres d'Act Up Paris depuis plusieurs années. On avance encore. 2003, première revendication portée par le GAT que je développerai un petit peu plus tard. 9 octobre 2003, création de l'émission radio Bistouri Oui Oui sur Radio Libertaire. Bistouri Oui Oui, la radio faite par des trans, pour les trans et pour tout le monde sur Radio Libertaire, tous les troisièmes jeudis du mois de 2003 à 2006. Les émissions sont en podcast encore sur le site de la radio, vous pouvez y aller. 27 janvier 2004, la circulaire de juillet 1989 est déclarée illégale par la Cour de cassation après 15 ans de service. 25 septembre 2004, première AG des trans organisée par le GAT. Donc les mots d'ordre sont l'Assemblée Générale demande à l'unanimité la dépsychiatrisation de la question trans. L'Assemblée Générale demande aux associations, groupes et organisations trans présents le 27 septembre à l'ANAES de proposer collectivement un accès aux soins sans diagnostic psychiatrique préalable. L'Assemblée Générale demande le changement du numéro de sécurité sociale et du prénom sans acte chirurgical préalable. Donc je zappe beaucoup, beaucoup d'infos importantes, de dates importantes. Mais j'avais envie de parler encore de quelques dernières petites dates, un peu des victoires obtenues depuis. Donc on arrive à juillet 2012, pénalisation de la transphobie. Un premier pas en faveur des trans. Le Sénat a inscrit à l'unanimité la discrimination envers les personnes transsexuelles ou transgenres dans la liste des discriminations punies par le Code pénal. C'est une décision très importante. Jusqu'ici, l'article 225.1 du Code pénal, qui définit le cadre des discriminations, n'incluait pas les discriminations en raison de l'identité de genre, un terme employé dans les textes européens. Le Sénat a modifié d'ailleurs ce terme en employant celui d'identité sexuelle, qui est un terme moins satisfaisant, mais c'est un premier pas. Une autre petite date de victoire, novembre 2012, Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine. La Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine, CNE Suisse, s'est prononcée pour l'arrêt des mutilations génitales sur les enfants intersexués. Les enfants intersexués ne devraient plus être opérés automatiquement. Ils doivent être associés au choix, celui-ci n'intervenant qu'à une période où ils seront capables d'en discuter et de comprendre les enjeux. La commission d'éthique rejette pour l'instant l'introduction d'une troisième catégorie, outre le sexe féminin, le sexe masculin, comme le pratique notamment l'Australie. Et voilà, c'est fini pour moi, j'ai pas eu de poète, a priori.
Non, parce que globalement, ce sont des dates et comme on l'a dit entre nous avant, les luttes trans, c'est quand même quelque chose de relativement neuf. Ce qui fait qu'objectivement, y a peu de personnes qui sont dans ces luttes-là, malheureusement. Bah, le peu qu'en ressort, c'est forcément ces dates-là. Et ce sont des personnes qui se connaissent entre elles. Et Et c'est d'une, enfin là, c'est encore des personnes qui sont activistes à l'heure actuelle, donc je pourrais pas dire que ce sont des choses qui n'ont pas existé, c'est la triste vérité, et il y a malheureusement bien peu de victoires satisfaisantes, et il y a encore, les principales sont encore à venir, mais on va en parler après.
On se fait un petit big up. Un petit big up. Yes. Vous êtes toujours avec les Cyprinettes vous guettent, l'émission féministe qui va vous briser les...
clichés.
Ok, c'est le moment de notre petite discussion avec Elsa.
Bonjour.
Voilà. Rebonjour Elsa. Bon, bah, si tu peux commencer par te présenter, qui es-tu ?
Alors, si je devais me présenter, je veux dire que déjà, je m'appelle Elsa, que j'ai 28 ans et... on peut l'entendre, j'imagine, à ma voix que même si je m'appelle Elsa, j'ai pas forcément la voix d'une personne qu'on imaginerait s'appeler Elsa. Ça veut dire que j'ai une voix un peu masculine socialement, ce qui fait que tu pourras le deviner, je suis une meuf trans. C'est l'objet du coup de ma démarche vers vous aujourd'hui, c'est qu'on va parler de tout un tas de thématiques qui sont autour de cette identité et de ce vécu social qu'est le mien de personne trans. Voilà, donc j'ai 28 ans, je suis militante dans plein de domaines. Je suis notamment du coup salariée à ACT UP. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant. Je ne travaille pas à ACT UP Paris, je suis à ACT UP à Toulouse, du coup ACT UP Sud-Ouest. Je suis militante trans et du coup une partie de mon travail à Toulouse, ça va être du coup d'organiser et de d'organiser les soirées trans, c'est-à-dire essentiellement faire de la convivialité, mais veiller à être un minimum visible extérieurement pour sortir des personnes de l'isolement, et une fois que ces personnes-là sont sorties de l'isolement, réussir à faire un accueil de qualité. Et par ça, j'entends qu'on essaye de créer autour de ces personnes des réseaux de soutien, des réseaux de logement, des réseaux d'information et des réseaux de santé pour que ces personnes-là soient à même de vivre mieux, parce que ça va être un peu l'objet de mon blabla aujourd'hui. Malheureusement, les personnes qui sont trans aujourd'hui en 2016, malgré les quelques victoires qu'on a pu citer avant, vivent mal, voire même survivent. Et l'essentiel de mon travail, en tout cas sur ces thématiques-là, ça va être de capter les personnes et faire en sorte que ces personnes-là vivent mieux ou même survivent un peu mieux. Sinon, ben, mes autres petites actions à côté, du coup, c'est de travailler à ACT UP, où à ACT UP, du coup, moi, je vais faire de la relation entre différents univers, notamment, historiquement, ACT UP, c'est quand même centré sur un public très gay, séropositif, et malheureusement, toutes les populations sont touchées par le VIH, et moi, du coup, mon travail, ça va être de faire de la mise en relation dans les différents univers dans lesquels j'agis, et notamment, du coup, faire venir dans ACT UP pour du soin, du suivi administratif, une obtention de leurs droits, notamment pour ce qui est les aides administratives et pour le logement des personnes handicapées parce que VIH ou alors avec hépatite, de faire venir du coup des personnes qui sont difficilement captables parce que très précarisées, parce que exclues de la société et tout, et des personnes qui du coup, de fait, par mécanisme de protection, redoutent un peu tout le côté officiel des associations d'État et compagnie. Et j'essaie de faire en sorte que, de montrer à ces personnes-là que s'il y a dans la société plein de problèmes, notamment pour les personnes trans et pour les personnes séropo et trans PD Big Win et LGBT et tout, à ACT UP, on en sera de toute façon la meilleure partie. Voilà.
Comment tu prends contact avec ces personnes? Parce que du coup, c'est pas forcément facile à repérer.
Bah, les personnes isolées, le principe, c'est qu'elles sont très difficiles à capter et que ce sont du coup elles qui, malheureusement, doivent être leur propre moteur pour venir vers des personnes qui sont des personnes référentes. Pour être une personne référente, il y a plusieurs possibilités. Soit de faire, on va dire, de l'associatif et être... il faut faire connaître son association ou son projet. Ou alors, il faut être une personne un petit peu comme moi, qui se bouge un peu beaucoup tout le temps, qui fait son maximum pour être entendue et qui a bien compris que face à des situations d'urgence de vie et de parcours, si je peux réussir à capter un peu de lumière de projets à droite, à gauche, que ce soit féministe, de radio, de télé, si je peux capter un peu de lumière et que cette lumière peut me permettre d'être un tout petit peu plus visible et de gagner du temps et d'être, de pouvoir capter encore plus de gens encore plus rapidement et de faire un travail de qualité encore plus, avec plus de soutien, ben je le fais. Et capter cette lumière-là, ça permet aussi, du coup, comme aujourd'hui, de venir dans des espaces comme les vôtres et d'expliquer des réalités de vie, expliquer des parcours, expliquer un lexique ou même des lexiques, parce qu'il y en a plusieurs. Des choses qui pour nous sont automatiques en interne de notre propre monde, mais pour s'en sortir, on aura besoin éventuellement aussi du monde à l'extérieur de nos réseaux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, si je peux vous expliquer quelques références, enfin référentes de base de nos univers et de nos manières de parler, du lexique qu'on utilise et des choses qui même dans vos discours extérieurs pourraient, malgré vous, nous faire du mal, bah, ça va être aussi l'objet de ça aujourd'hui. C'est-à-dire du coup, faire parler des actions d'ACT UP, faire parler du coup de mes actions ou d'autres choses, même on va parler de mon blog après, c'est une chose, mais du coup aussi faire en sorte que les personnes non concernées et du coup le plus souvent non informées, bah, soient un peu plus informées et du coup à même d'être plus... dans un rapport correct avec des personnes qui se révèlent être différentes de la cis-identité.
C'est génial, hein, Claire, tu viens nous briser les clichés, quoi.
C'est le but.
Alors justement, tu parlais de définition, de lexique. Je pense que c'est important parce que j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu par rapport aux personnes trans, on parlait de transsexualité ou qui est un peu un vilain mot. Et ben voilà, déjà définir qu'est-ce qu'une personne trans, transgenre, transidentité, cisgenre. Enfin voilà, on attend un peu tes lumières là-dessus.
Alors je vais essayer de vous faire un petit topo en quelques points. Quand on est à la naissance, en général, on est nu et on nous assigne un genre en fonction de l'appareil génital qu'on a entre les jambes. L'appareil génital entre les jambes, il n'est pas en deux catégories. On va socialement le dichotomiser en deux catégories, mais objectivement, de manière, on va dire, biologique, même si c'est un mot un peu vaste, ça sera quelque chose, du coup, qui va être un grand curseur. Et il y aura socialement deux catégories, et du coup, entre les jambes, on aura quelque chose qui va plus se rapprocher de la vulve ou quelque chose qui va se rapprocher plus d'un pénis. Et on a parlé des personnes intersexuées tout à l'heure. Les personnes intersexuées sont les personnes qui, aux yeux de l'ordre médical, auront un appareil génital qui, pour plusieurs facteurs, ne sera ni vraiment une vulve, ni vraiment un pénis. Et du coup, là, il y aura, du coup, encore à l'heure actuelle, une volonté réelle de transformer l'appareil génital et transformer la personne pour que la personne soit conforme aux personnes dites normales. Donc les personnes dites normales, ce sont les personnes comme nous, la plupart du temps. Au-delà de ça, on va genrer les personnes, même avant leur naissance, en fonction de leur appareil génital. Ça veut dire qu'une personne qui aurait un appareil génital qui va ressembler plus à un pénis qu'à une vulve va être éduquée en petit garçon, va être éduquée à être compétitif, à aimer la bière et le foot et la transpiration, à être assez dégueulasse avec les meufs et tout. Et du coup, d'où
en le sexisme
et tout. Bien sûr, mais de toute façon, les normes sociales sont des choses qui sont très générales. Et ça ne serait en aucun cas une vérité qui s'appliquera au niveau personnel. Et de même, il y aura une éducation genrée pour les femmes. Et du coup, là, il y a tous les grands stéréotypes qui vont s'appliquer et qui, malheureusement, seront intériorisés la plupart du temps. Voilà, ça, du coup, c'est le genre et ça va être une application qui va être une application certainement pas d'ordre naturel. Les femmes ne sont pas plus douces naturellement et les hommes ne sont pas des gros bourrus naturellement. Tout ça, ce sont des implications sociales de normes qui sont les nôtres à l'heure actuelle et qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et malheureusement, en 2016, le sexisme, il est encore très très présent.
Et oui.
Voilà. Et du coup, le genre social fait qui on est. Voilà. Au-delà de ça, quand on est en état de réfléchir sur qui on peut être et son rapport à sa propre identité, à son parcours, à son corps, tout ça, on peut être à même à réfléchir à un moment donné sur tout ça et se poser des questions sur qui on est vraiment. Il y a des personnes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle parce que ces personnes-là sentent qu'il y a bien un décalage entre leur propre ressenti et ce qu'on attendrait de ces personnes, d'être hétérosexuelles du coup, et ces personnes se révèlent être différentes. Il en est de même pour les personnes qui sont cisgenres. Les personnes cisgenres, ça veut dire, c'est les personnes qui se sentent encore en adéquation avec le genre assigné à la naissance. Sont du coup cissexuelles, les personnes qui sont assignées femmes et qui se sentent encore, à l'heure actuelle en tout cas, femmes. Et il y a tout un tas de personnes qui ne se sentent pas dans cette norme-là et qui se sentent différentes. Ces personnes-là, la plupart du temps, ce sont des personnes trans. Voilà. Du coup, des personnes qui seront en décalage entre ce qu'on va appeler l'identité de genre, qui va être quelque chose de l'ordre du ressenti, et l'assignation à la naissance qui correspond du coup à des critères sociaux de dichotomie du genre. Qu'est-ce que c'est qu'être trans ? Être trans, du coup, c'est le résultat de ce constat-là, et il faut savoir ce qu'on en fait. En termes personnels, être trans, ça peut être complètement l'identité, et du coup, là, on va tomber plutôt dans une idéologie queer, et c'est quelque chose même d'où on peut se réapproprier les stigmates, parce qu'être trans, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très difficile, et du coup, ça peut être, par exemple, pour moi, une réelle fierté d'être trans. Et de l'ordre, du coup, ça va être une analyse qui va être de l'ordre de l'identité, ça va être de la réappropriation. Et malheureusement aussi, c'est que... En 2016 encore, le fait d'être trans en termes d'identité va malheureusement, la plupart du temps pour toutes les personnes, ça va provoquer du coup des rapports très conflictuels avec le monde extérieur et du coup toutes les interactions que ça va être de l'ordre du personnel, de l'ordre du professionnel, de l'ordre de se promener dans la rue, tous les rapports sociaux du coup même à l'échelle structurelle, hein, du coup de tous les rapports qui soient les plus généraux ou les plus personnels et les plus intimes. Vont être très conflictuels et du coup ça va être ce qui s'appelle la transphobie. Du coup être trans c'est aussi ce rapport là au monde extérieur qui est normatif, ça veut dire que toutes les personnes qui vont s'écarter de la norme vont ressentir du coup une violence normative dans l'autre sens pour revenir vite à coup de bâton s'il le faut, voire pire, dans une vie correcte et qui donnerait une bonne image de l'humanité. Malheureusement, moi, à l'heure actuelle, je donne une piètre image de l'humanité et j'en suis redoutablement fier.
Transsexuel, pourquoi c'est un petit peu un mot, un peu un gros mot, quoi.
C'est une excellente chose. Moi, vraiment, c'est que plus ça va dans les différents courants féministes, transféministes et autres, qui incluent les personnes trans, moins on est d'accord sur les mots à utiliser. Ça veut bien dire qu'il y a une richesse qui nous habite, nous, les personnes trans, dans nos mouvements. Il y a des personnes qui, comme moi, vont se définir transgenre, parce que du coup, ce sont des personnes qui... seront décalants sur le genre assigné à la naissance. Mmh. Et il y a des personnes qui se définissent transsexuelles. Ce n'est absolument pas un problème à mes yeux. Si ce n'est qu'il est important pour les personnes cis de comprendre les différentes nuances et comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière. Du coup, à mes yeux, transsexuel, c'est du coup, comme on l'a dit tout à l'heure dans la liste, l'historique de nos luttes, transsexuel, pour moi, c'est quand même un mot qui vient de l'ordre des médecins, ça vient de personnes cisgenres, ça vient de monde hétérosexuel, ça vient de ceux, de celles et ceux qui sont le moteur de la violence normative. Il y a sexuel dedans, et c'est encore quelque chose qui, du coup, va donner encore une image fantasmée, médiatique, autour des personnes trans, sur le fait que les personnes trans, ce sont des personnes ultra-sexuelles qui ont des motivations et une déviance interne sur toutes les questions de sexualité et de rapport aux autres qui seraient criminelles la plupart du temps, parce qu'on est encore sur des fantasmes sociaux. Par exemple, si je veux vous raconter ma vie, j'ai été un stit avant. J'ai été un stit et quand j'ai fait mon coming out de meuf trans, on m'a clairement fait comprendre que j'étais une personne pédophile et qu'une personne comme moi ne pouvait pas être en rapport avec des enfants sans être extrêmement douteuse, voire même avec des actes criminels et répréhensibles par la loi.
Mais alors là, moi, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, mais ça me choque. Je veux dire, comment on peut... C'était un niveau officiel que ça t'a été fait ou...
Bah, c'est bien sûr un ordre officiel parce que ça fait dans l'éducation nationale, mais comme à chaque grande discrimination et tout, c'est caché sous couvert d'autres accusations et tout, ce qui fait que ça peut être difficilement répréhensible. Mais comme il y a un jugement qui est en cours, on va plutôt laisser un peu le suspense et on racontera ça dans un an ou deux.
Parce qu'à le mot sexuel, on en voit de suite personne déviante. Alors, moi personnellement, ça me choque parce que, donc, homosexuel, souvent, les homosexuels, ils avaient la mauvaise pub de personnes avec une sexualité débordante, qu'il fallait pas... Si, par exemple, je dis, moi, je suis homosexuel, ah oui, non, mais tu me piques pas ma copine, quoi. C'est pas... Enfin, voilà. Et hétérosexuel, par contre, hétérosexuel, c'est la norme. C'est la norme, entre guillemets. Alors, du coup, on va pas dire, hétérosexuel. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais qu'on rajoute sexuel, de suite, ça met une espèce de déviant, de déviante. Moi, j'ai envie de dire merde.
Et au-delà de ça, le fait qu'il y ait transsexuel dans transsexuel, encore une fois, pour moi, personne qui utilise un lexique différent, ça va encore faire le lien entre l'identité de genre d'une personne et son appareil génital. Alors, si vous avez bien compris ce que je vous expliquais avant, il n'y a aucun lien biologique entre les deux. Tous les liens sont sociaux et s'appliquent vraiment très fort. Du coup, à tel point que la majorité des gens pensent que le lien social est naturel. Et encore une fois, transsexuel, ça veut aussi faire penser que toutes les personnes trans sont dans une transition dite complète. Entre guillemets, là tu ne vois pas, mais je fais les guillemets. Alors que non, vous avez bien compris que complète, ça voulait dire une personne qui veut aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, ça veut dire agir sur son appareil génital. Alors que c'est certainement pas une vérité. De toutes les personnes trans que je connais, et je connais beaucoup de personnes trans, ce n'est pas du tout le cas pour une majorité d'agir sur cet appareil génital-là. Il y a des meufs trans qui adorent leur bite, et c'est très très bien. Il y a des mecs trans qui adorent leur vagin. J'ai connu personnellement une meuf trans qui était même amie sur Facebook avec sa bite, parce que voilà. Et c'est très bien, et on est obligé, nous, personnes trans, d'être même fiers par excès et d'être ravis de ce qu'on est, de nos corps, de notre différence. Qu'on est même, du coup, à même de faire de telles bêtises, parce que c'est drôle, certes, mais on est obligé de faire ça. Et si j'utilise transgenre, c'est avant tout parce que dans transsexuel, il y a tout ça qui gravite autour, et c'est des clichés que moi, j'essaye au quotidien, en discutant avec les gens, de casser. Mmh. Voilà.
Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, l'aspect un peu ludique, là, sur Facebook, d'être ami avec sa bite, est-ce que le lien de ce que tu disais, j'ai l'impression, c'est que mon avis, mais que à un tout petit niveau, l'homosexualité commence un petit peu à se normaliser, alors que c'est pas du tout le cas pour les trans.
On va discuter ce que ça veut dire normaliser, mais
ouais.
Disons qu'il y a quand même en France, toutes les personnes qui sont non hétérosexuelles, on peut leur offrir différents milieux. Il y a le milieu LGBT mainstream qui, à mon sens, si on peut le résumer en une phrase, ça va être on est LGBT, oui, mais on va être comme les autres, c'est-à-dire être cis hétérosexuel. Et il y a certains milieux alternatifs plutôt dans lesquels j'appartiens, dans lesquels j'agis au quotidien, ça va être de dire on est différent, on est différente et ça s'accepte. Et cette différence du coup là va être de l'ordre du coup de l'identité, du vécu, du relationnel, de l'ordre de la famille, de plein de choses. Et ces choses-là s'acceptent, du coup. Et moi, je trouve que c'est un triste constat de dire que les gays, les lesbiennes rentrent dans un truc de normalisation et que, limite, on les remarque même plus. Pour moi, c'est désastreux. Ça veut dire que si toutes les différences doivent être niées et on doit rentrer, du coup, dans un modèle qui n'est pas le nôtre, pour être à l'abri de toute phobie, enfin de toute agression, il faut ressembler à la majorité. Je suis désolé, ça sera jamais mon message et ça sera jamais ma vie. Moi, je suis une meuf trans, je suis une grande pédale galactique, je suis redoutablement fière de mon corps différent et je ne veux pas de passing de meuf, je ne veux pas d'un passing de mec, je veux être reconnue comme une meuf trans et je trouve ça génial.
Et alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau vécu, au niveau société, comment ça se passe pour des personnes trans. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a des associations qui existent, tu nous en as parlé aussi Elsa, que ben, voilà, tu es à donf dans plein de choses et que tu rencontres ben, les personnes isolées. Enfin voilà, un petit peu faire un état des lieux aujourd'hui. Du transgenre, transidentité au niveau sociétal.
Alors, spoiler, je vais te raconter la fin, c'est la merde. Clairement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les associations trans en France, on les connaît toutes. Et c'est un cercle de peu de personnes remplies de bonne volonté, avec une énergie folle et tout ça. Mais c'est un constat que, globalement, quand on est trans en France, qu'on soit une meuf trans, qu'on soit un mec trans, qu'on soit quelque chose qui échappe à la non-binarité, enfin, la binarité des genres, globalement, nos vécus sociaux sont désastreux. Globalement, il y a une exclusion sociale qui est hallucinante. Le nombre de personnes trans qui se suicident, c'est une catastrophe. Le chômage chez les meufs trans est de l'ordre de 90%, et encore, je pense que c'est des chiffres qui sont très optimistes. C'est ça la réalité. Ça veut dire que quand on est une personne trans en France, qu'on se révèle déjà être trans pour soi, je doute, moi, qu'il y ait une grande proportion de ces personnes-là qui soient à même de dire « Bon, je suis une personne trans, qu'est-ce que je fais de cette information-là » Est-ce qu'il y a autour de moi, dans ma ville, est-ce qu'il y a des gens dans mon entourage avec qui je peux parler de ça en toute sécurité ? C'est certainement pas le cas. Est-ce que je peux parler de ça à des personnes avec qui je vais partager, du coup, cette identité-là avant peut-être d'en partager le vécu ? C'est pas encore le cas, parce que des associations trans qui sont connues et tout, il y en a dans quelques villes. Toutes les personnes isolées qui sont pas dans les grandes villes vont rater cette information-là. Et du coup, on peut aussi remercier du coup l'aide d'Internet. Mais si on regarde que ma propre existence, elle est très révélatrice de ce qu'est un parcours. C'est que moi, bah, je suis né dans une famille relativement de gauche, avec pas trop de soucis d'argent, on s'en sort... Voilà, famille hétérosexuelle lambda, on aimerait qu'elle soit lambda, malheureusement, c'est encore le cas, il y a encore plein de personnes dans la merde, mais j'ai fait mes études, tout allait bien, j'étais dans plusieurs placards, je passais pour le petit héros modèle adorable, tout ça. Déjà, le premier coming out de dire que j'étais pas franchement hétérosexuel, ça a été difficile et ça a engendré déjà des rapports conflictuels avec ma famille. Mais avant tout avec mes pères de l'époque, mes potes, les gens avec qui je faisais mes études et tout ça. Et puis quand, à 23 ans, j'ai décidé enfin, après 4 ans de placard, de dire que j'étais une meuf trans, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas pour rien si je connais absolument personne de ma vie d'avant cet âge-là. J'ai perdu tout le monde, j'ai perdu mes collègues de fac, j'ai perdu mes amis d'enfance, J'ai perdu ma famille aussi, même si depuis mon frère jumeau est revenu. Et ça, c'est une réalité. Et j'ai perdu mon travail à l'éducation nationale, comme je l'ai dit plus tôt. Et le tout en 2 mois, 3 mois. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi en off tout à l'heure, ça fait du coup 4 ans maintenant que je suis officiellement une meuf trans et que j'en suis redoutablement fière et que j'en fais ce discours-là tout le temps et que je suis connue pour ça et tout. Ou dans la rue, je suis fière de qui je suis. Ça veut dire que si je peux marcher au milieu de la route, je marcherai au milieu de la route en roulant des fesses parce que je suis fière et j'emmerde tout le monde. Mais je suis passé 8 fois à l'hôpital à cause des agressions en cette période de temps. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans d'autres émissions de radio, je me considère comme aisé dans ce milieu-là. Parce que oui, moi, il m'est arrivé tout ça, sauf que je suis une blanche. Sauf que je parle très bien le français, je m'en sors au niveau administratif, je connais l'état des lois en France. Je suis valide, même si à cause des agressions, j'ai eu du mal à marcher pendant plus de 2 ans. Ça, ce sont aussi des privilèges qui sont les miens, et avec ces privilèges-là, je m'en sers pour avoir des positions de pouvoir que j'aurais dû avoir si j'avais été cisgenre dès le départ. Et du coup, bah oui, je vais me servir de ces privilèges-là, mais en chier 10 fois plus pour accéder au monde du travail. Mais c'est pour ça que je me considère, en interne en tout cas, des réseaux de meufs trans comme étant une personne très privilégiée en l'heure actuelle. Parce que j'ai un petit travail, je gagne plus que le RSA. Ça veut dire que j'ai plus que 25 ans, ça veut dire que j'ai ces ressources-là qui sont les miennes. Et j'ai un petit travail qui me passionne, je suis bien entouré, ce qui est quand même rare. J'ai des relations sentimentales et sexuelles, ce qui est quand même rare. Parce qu'on peut pas dire que quand même dans les milieux féministes, la transmisogynie soit pas ultra présente. Et que du coup, même dans les milieux féministes, les meufs trans crèvent de solitude. Voilà. Moi, j'habite quasi en non-mixité dans un appartement avec des personnes géniales. J'ai une voiture. Ça veut dire que si un jour je perds l'appartement, je peux dormir quelque part et je ne dormirai pas dehors. Parce qu'une meuf trans qui dort dehors, elle tient pas l'année. Voilà. Et ça, je vous le dis, c'est une vie de meuf trans privilégiée. Voilà. Parce que je sais très bien que l'immensité des personnes trans, en tout cas en France, n'ont pas ce luxe de vie. Mais par rapport aux autres personnes autour de moi, bah oui, je suis une personne précaire, je suis une personne trans dans la merde, bien sûr. Et j'ai bien peu d'avenir par rapport à d'autres. Et j'ai une capacité à me projeter dans le temps qui sera bien réduite par rapport à d'autres qui ont le luxe de pouvoir se projeter sur 20 ans, sur 30 ans, avoir des projets de famille et avoir une capacité à se dire que dans 2 ans, on aura encore de la thune. Voilà. Et c'est quelque chose qui, par exemple, moi, va me différencier du coup de beaucoup de personnes dans les mondes LGBT. Et qu'on pourra même remettre en question qu'est-ce que veut dire LGBT ? Est-ce qu'il y a même un sens à dire LGBT ? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les personnes gays et lesbiennes commencent à rentrer un petit peu dans le moule et sont carrément dans le moule. Hein. Il y a vraiment, voilà. Et du coup, ce sont des personnes qui sont à même maintenant de quitter les luttes parce qu'il n'y en a plus besoin. Enfin, les personnes, la majorité des gays cis bourgeois du centre-ville qui font du militantisme 4 quarts 2 heures par semaine le samedi. Sont rentrés dans la lutte, et encore c'est pour se mousser pour le mariage pour tous, et dès que la loi est passée, ont quitté toute lutte, et maintenant leur manière de lutter, à leurs yeux, dans leurs paroles, ça va être de manger des petits gâteaux entre gays, cis et bi privilégiés le samedi, quoi, enfin... Et à côté de ça, j'ai envie de leur dire, et à chaque fois je leur dis, mais attention, dehors on crève, dehors nous on n'a pas ce luxe-là. Et voilà, et puis surtout, il n'y a pas de lien vraiment entre ces personnes-là et les personnes trans. Ça veut dire qu'avec toute la bienveillance que c'est qu'est la leur, et ces personnes-là, la plupart du temps, qui organisent les mouvements LGBT, sont des personnes formidables, remplies de bonne volonté, qui veulent faire bien les choses et tout. Ces personnes-là ne connaissent pas la vie des personnes trans, ne savent pas accueillir réellement les personnes trans, sont complètement perdus face à une personne trans qui est ingenrable, alors qu'il suffit, avec la plus grande logique du monde, de lui poser la question. Voilà, c'est ce travail-là, c'est un décalage de toute façon. Enfin, ces personnes-là n'ont pas le même rapport au temps que moi, et n'ont pas le même rapport à l'argent que moi. Enfin, tout ça, ce sont des luttes à mener, et je pense, moi, que de toute façon, ma lutte ne se fera pas avec les cis. Ne se fera certainement pas avec les gays cis blancs, machin truc. Se fera certainement pas, du coup, avec les hétéros. Alors là, c'est un autre monde. Je peux espérer que ce combat-là se fasse avec des meufs féministes, quelles qu'elles soient, bien sûr, parce qu'on a des choses en commun, et voilà. Mais sur les questions trans, la révolution, les changements doivent être amenés par les personnes qui sont concernées. C'est l'objet un petit peu de ce qui m'anime au quotidien. Et on peut espérer que dans quelques années, tout ça change.
Quand tu dis « je ne la vois pas du tout, ma lutte avec les personnes hétérosexuelles », dans la création de la lutte, dans la création des revendications, ou...
Ah, je vais même plus loin, je ne la vois pas même dans l'ordre du soutien. Ça veut dire que... Si nous, on essaye de faire changer les mentalités sur le fait que c'est pas parce que ton enfant, il naît avec un appareil génital qui va être de l'ordre masculin socialement, du coup quelque chose qui va ressembler plus à un pénis, qu'il faudra forcément l'éduquer en petit garçon. Et au-delà de ça, il faudra peut-être que si tu l'éduques en petit garçon, t'attendre un jour à ce que cette personne se révèle être autre qu'un petit garçon. Avant que les gens ça intègrent ça réellement et... applique ça à leur manière d'éduquer leur enfant au sein de leur propre famille, il y a un bout de chemin à faire. Et puis, c'est pareil, il y a un bout de chemin à faire entre le discours public de ces personnes-là et les actions réelles. Mes parents, par exemple, comme beaucoup d'autres parents d'autres familles avec des personnes trans, sont des personnes adorables, de gauche, ouvertes, qui acceptent la différence, même non, qui tolèrent. C'est une grande nuance. Et quand j'ai révélé ma transidentité il y a 2 ans, ces personnes-là qui étaient à même de répondre dans tous les questionnaires, oui, bien sûr, open aux trans, open aux PD, open à tout ça, quand ça les concerne eux-mêmes et qui sont touchés au sein de leur propre confort de famille, se révèle être bien plus oppressif qu'on aurait pu le croire au début. Et ça, bah, c'est une réalité. Et ça, tant que ça existera, moi, je doute profondément d'une quelconque aide aux luttes trans chez les personnes qui sont hétérosexuelles. Parce que c'est les personnes qui sont le plus dans la norme. Du coup, moi, je pourrais peut-être compter sur un soutien des milieux féministes, et notamment transféministes. Je peux compter sur un soutien des personnes qui vont connaître l'équivalent de la transphobie sur des questions d'expression de genre. Du coup, dans le milieu PD, les grandes folles qui, du coup, vont connaître ce décalage entre leur genre et leur expression et, du coup, vont être à même de vivre, en fait, exactement les mêmes oppressions que les nôtres. Les butch aussi, dans le milieu Gwyn. Ces personnes-là sont des personnes qui vivent les mêmes choses que nous et vont être à même d'être des excellents alliés, si ce n'est même participer au même niveau que nous dans nos luttes. Voilà. Toutes les personnes qui échappent à ces oppressions-là, et tant mieux pour ces personnes-là d'ailleurs, hein, c'est quand même mieux d'avoir une vie un peu plus sécurisée, je ne compterai jamais sur elles, parce que de toute façon, ça va venir de nous, personnes concernées.
Il me semble qu'Emily en studio a envie de réagir.
Oui, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que tu penses que la lutte des trans se fait par étapes? D'abord du côté des trans, et puis après l'ouverture avec ce que tu appelles les cis, tous les autres en fait. Parce que je comprends pas comment une lutte peut se faire si c'est pas tous ensemble.
Ça dépend de ce qu'on appelle la lutte. Ça peut être les barricades, ça peut être de la PEDA. Hein. Je t'avoue que moi, les barricades toutes seules, j'y crois pas trop. Non, ça sera plutôt, du coup, moi, mon militantisme, il a l'air de rien comme ça, mais mon militantisme, c'est d'aller faire de la PEDA tous les jours avec des gens, d'aller expliquer ça, d'aller expliquer ne serait-ce que la base, en fait. Je vais même pas vous parler de Preciado, hein. Je vais vous expliquer le lexique de base, et ça va être l'objet de ma venue aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est que le vécu social, en général, des personnes trans, voilà. Ça, pour moi, c'est déjà une manière de lutter. Parce que cette émission-là va être écoutée par, j'imagine, des milliers de gens.
Jusqu'en Australie. Ouais.
Jusqu'en Australie, bien sûr. Et je connais des personnes en Australie qui vont nous écouter.
Oui.
Mais voilà, si ça peut toucher des gens, si ça peut les faire réfléchir, si ça peut leur apprendre quelques notions de base, et si ces personnes-là, du coup, plus tard, vont rencontrer des personnes trans et seront à même d'être plus correctes, d'avoir un vocabulaire qui va être réellement non intrusif, tout ça... Bah, c'est gagné. C'est déjà une grosse partie de la lutte. Et quand on aura déjà gagné tout ça, et qu'on va être à même d'être entendu, et que socialement l'image d'une personne trans, ça sera pas une personne prostituée, pédophile, machin, et que les gens comprendront que si, oui, il y a plein de personnes trans qui sont prostituées, c'est parce que c'est avant tout qu'on est précarisé au maximum, et qu'on n'a aucun autre choix pour gagner de l'argent que ce travail-là, la plupart du temps, en tout cas chez les meufs trans. Le jour où le regard social il aura changé parce que des personnes comme moi et beaucoup d'autres personnes, on aura fait changer les choses, on aura fait changer le regard, ce jour-là, je pense que le changement d'état civil, on l'aura comme ça. Ce jour-là, je pense que les personnes trans qui ont peur des placards seront peut-être à même de trouver beaucoup plus facilement de l'aide, du soutien, du relais. Voilà. C'est ça, les luttes. Après, à ce moment-là, une fois qu'on en sera à ce niveau-là, je pense que les alliés, de toute façon, se présenteront d'eux-mêmes. On n'aura même pas besoin d'aller les chercher.
Comment tu penses arriver à cette étape-là, si tu veux? Parce que là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle commence déjà avec les autres.
Bien sûr.
Tu es en train d'en discuter, pas pour les trans, là, pour d'autres personnes.
Moi, aujourd'hui, le but de ma venue, c'est bien d'être entendu par des personnes extérieures, des personnes qui ne connaîtraient même pas les luttes LGBT, à la limite. Voilà, c'est ces personnes-là que je veux toucher et leur donner quelques billes de réflexion. Voilà.
Et c'est aussi pour ça que je trouve ça super intéressant. Mais si j'ai bien compris la question d'Emilie, c'est plutôt que j'ai l'impression, dans tout ce que tu as dit, tu nous l'as dit aussi tout à l'heure, que tu portes aussi par rapport à ton vécu, qui est, voilà ce qu'il a été, une certaine colère. Et que pourtant, malgré cette colère, tu viens pour parler aux autres, dont tu dis que pourtant tu comptes pas sur les hétérosexuels dans cette lutte, mais tu viens déjà quand même, malgré ce qui s'est passé pour toi, dans cet esprit d'ouverture aux autres, d'explication, de pédagogie, de...
Pour ce qui est de la colère, elle sera toujours là. Entre ma vie et la vie de mes sœurs, je peux dire que oui, ma colère, elle sera toujours là. Un des slogans d'ACT UP, c'est colère égale action et action égale vie. Et c'est vraiment ça. Moi, si je suis une personne violente, c'est parce que dans violence, y a vie. Moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est-à-dire que ça sera une violence qui sera à l'opposé de l'endormissement et de l'expectative. Ça sera quelque chose qui ira, quitte à être offensive et tout ça. Si on n'arrive pas à rentrer par la porte, on rentrera par la fenêtre. Et on cassera la fenêtre s'il faut, mais on va y arriver, point. Et on a, parce qu'on n'a pas le choix, c'est même pas de l'optimiste machin, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà. Moi j'ai réussi à survivre, j'ai 28 ans, maintenant j'ai un travail, et je suis à l'aise dans mon corps maintenant. Ça, c'est une exception. Maintenant, je suis en colère parce que j'ai vécu plein de trucs de merde, et autour de moi, c'est la merde, cette colère-là, je vais en faire quelque chose de constructif. Ça veut dire aussi venir, du coup, faire de la PEDA aux personnes que malheureusement je ne croise que trop peu dans ma vie, qui sont des personnes pas concernées par mes luttes. Voilà.
Bah, la colère, ça anime, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous rend vivantes, c'est super moteur, quoi.
Voilà.
C'est super moteur, et puis ça sent, enfin, quand tu nous expliques, enfin, voilà, quoi, c'est... on y va, quoi. C'est...
Mais encore une fois, c'est parce que je suis extrêmement entourée à Toulouse, et... on a un réseau de ouf et il y a plein de personnes qui s'aiment beaucoup et plein de personnes très différentes qui s'aiment beaucoup. Ce qui fait que moi, ma colère, ok, elle vient de là, mais mon énergie qui est la mienne aujourd'hui et qui est celle d'hier et qui sera celle de demain, elle vient avant tout parce que à Toulouse, entre autres, hein, c'est parce que là, c'est la ville dans laquelle je vis, on a réussi à créer ce réseau-là de personnes qui vont pas bien, qui allaient pas bien, qui étaient à la ramasse, qui étaient détruites. Et on a réussi à faire des endroits sécurisé pour que ces personnes-là puissent se reconstruire, puissent être avec des pères, puissent ne pas être une minorité dans la foule. Voilà, cette énergie-là, derrière, elle est constructive, et moi j'ai réussi à m'en sortir parce qu'il y avait ce réseau-là, que j'ai contribué à créer aussi, faut pas, voilà. Maintenant, je sais très bien que ce réseau-là, il est réel à Toulouse, il est réel dans d'autres villes, mais c'est trop peu pour trop peu de personnes. Et... Si on peut faire mieux, si venir aujourd'hui me faire 6 heures de route pour une demi-heure d'interview peut changer les choses, et ne serait-ce que pour pouvoir capter que quelques personnes qui... Voilà, enfin, s'il y a une personne trans isolée qui me capte suite à cette émission-là, c'est réussi. S'il y a une personne cis ou autre qui réfléchit et qui dit « Oh putain, en fait, j'ai appris des trucs, c'est génial, je m'en fous, ça vaut le coup de faire ces 6 heures de voiture. » Point. Mmh. Voilà.
Oui. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans un aspect tellement rural... que c'est de savoir qu'il y a des choses non seulement qui se passent au-delà, mais ce réseau, tout ce que tu parles, qu'il y a des solutions. Moi, c'est là, je m'attendais même pas à une qualité ou quoi que ce soit autant dans tout ce que tu as pu dire, et voilà, ben, faut passer le message, et du coup ils peuvent venir te contacter. On mettra les contacts sur la page des Cyprinet aussi, on pourra, enfin.
Voilà, et je suis une porte d'entrée, je suis certainement pas le centre de quoi que ce soit. Et puis des personnes trans, je pense qu'ils sont disponibles et qui sont à même d'avoir des réseaux d'information, de soutien, de médecins, de voilà, pour échapper à la trajectoire classique, hein, parce que c'est une réalité, l'immensité des personnes trans passe par des réseaux qui sont bien moins connus, en fait. Ces réseaux-là sont connus en interne, et je pense que maintenant, moi je passe beaucoup de temps à voyager de ville en ville pour rencontrer des réseaux militants, alternatifs, trans, putes, tout ça, et trans-pédébéguines, LGBT, tout ça, et qui traînent autour aussi des questions de VIH. Et bien je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça grandit, et que des personnes trans référentes, des personnes sur d'autres questions qui sont des personnes référentes, il y en a un peu partout, et c'est en train de pousser. Et c'est une bonne chose. Après, c'est un gros travail de faire pousser ces personnes-là et de leur donner derrière toute la confiance et tout le soutien, parce que une personne dans une petite ville qui est une référente, c'est autant d'espoir pour toutes les personnes qui sont potentiellement autour et qui se cachent.
Yeah.
Est-ce que tu veux nous parler de ton blog, Elsa? Parce que mais pareil, je mettrai le lien du blog sur la page des Cyprinettes.
Voilà, c'est-à-dire que je fais plein de choses, je suis assez active sur Internet, je suis connu pour raconter des bêtises sur Internet et raconter ma vie, mais c'est important en fait de raconter des bêtises, de raconter sa vie quand on a une vie très différente. Je suis connu du coup pour être une militante islamo-gauchiste, vénère, d'ACT-UP, ce qui est une bêtise, mais c'est l'image qu'on en a. Je suis dans les réseaux trans, je suis dans les réseaux féministes. Et il se trouve aussi que j'ai du coup un blog sur Internet qui s'appelle Philomel, où on écrit entre personnes trans, ayant fait ou pas de la prostitution et tout ça, mais sur des questions de vécu traumatique. Voilà. Parce que la plupart du temps, comme je vous l'ai raconté, nos vécus de personnes différentes amènent de la violence. Et malheureusement, il faut savoir survivre à ces violences-là, il faut savoir se reconstruire, il faut savoir se créer un cocon, il faut savoir avoir de nouveau confiance dans son corps et dans sa vie. Et du coup, avec deux autres personnes, on a trouvé important de créer du coup un espace de réflexion sur les questions de transidentité, sur les questions de rapport au corps, sur les questions de pornographie, sur les questions de vécu traumatique, et notamment tout ce qui est le syndrome de stress post-traumatique. Voilà, parce que les viols correctifs, ça existe, parce que les tabassages publics, ça existe. Et il est important pour des personnes différentes d'avoir de l'information de personnes concernées. Parce que je ne vous cache pas qu'une personne qui se fait violer et qui est une personne trans, éventuellement prostituée, qui voudrait porter plainte au commissariat pour avoir, pour être soutenue officiellement, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Il n'y aura aucune démarche entamée. Et il y a même toutes les chances que les discriminations viennent se rajouter de la part des policiers. Il y a une différence vraiment cruciale, en fait, à mes yeux, dans le militantisme, entre accepter une différence et tolérer une différence. Parce que tolérer, quand même si c'est quand même un mot qui est utilisé tout le temps et à toutes les sauces, ça cache derrière de dire « tu es une personne différente, tu ne vaux pas mon niveau de personne dans la norme, mais par contre, je vais tolérer ta présence, mais derrière, il faudra que tu me remercies. » Ce n'est pas du tout, moi, mon objectif politique qu'un jour les trans soient tolérés. Non, j'entends pas être toléré. On ne tolère pas une différence, on l'accepte. Voilà. Et moi, j'entends être accepté. Bah, ça va passer par beaucoup de blabla, beaucoup de gens. Et c'est pas pour rien si, en fait, moi, je fais le lien entre le milieu trans-pédébiguine, queer, radical, tout ça, et des associations bien plus mainstream, du coup, bien plus oppressives, parce que bien moins informées, malheureusement. Et voilà, le monde LGBT... C'est une richesse de ouf, et l'avenir va pas se faire dans le milieu anar queer, il se fera par là aussi, mais à mon sens, l'avenir se fera par l'union des forces, et c'est bien important à mes yeux d'aller vers le milieu LGBT, ne serait-ce que le milieu LGBT, le monde hétéro, ça va attendre un peu, pour diffuser le savoir et montrer que même moi je suis vu comme étant une personne extrêmement violente, tout ça dans le milieu mainstream. Et puis depuis 2 ans, j'ai fait la démarche de venir régulièrement et puis participer du coup à du militantisme 4 quarts. Et montrer que ouais, en fait, je suis pas une personne violente. Enfin, j'agresse personne. Par contre, oui, j'ai un discours qui est cadré politiquement. Et montrer que ce discours-là, il est accessible en fait. Et que sur The Monde, moi je prends du temps et d'autres prennent le temps d'expliquer ça. Et je pense que petit à petit... le milieu LGBT va pouvoir apprendre et se remettre en question. Et il y a de quoi se remettre en question. Il y a bien sûr aussi de quoi se remettre en question dans les milieux queer, hein, bien sûr. L'avenir, il est là. Ça veut dire que petit à petit, les gays cis, qu'est-ce qu'ils apprennent? Et c'est très bien. Et heureusement, parce que sinon, ils s'en prendront plein la gueule un jour. Hein. Mais c'est ça l'avenir. C'est qu'on va réussir, au bout du compte, peut-être que c'est dans 10 ans, hein, mais... à faire en sorte que les personnes qui ne sont pas concernées, ou de loin, ne serait-ce que parce qu'ils connaissent une personne qui est concernée, apprennent. Si ces personnes-là, elles apprennent, et si derrière, elles se montrent pas tolérantes, mais dans l'acceptation, eh ben c'est gagné. Voilà.
Ok, merci Elsa. Eh bien voilà. Les Cyprinettes vous guettent sur Radio Larzac, c'est fini pour ce mois-ci. Vous l'avez deviné grâce à la petite musique de fond, Chloé part en voyage, devinez où ? Elle part où ?
Elle est partie déjà.
Elle est partie, oui c'est vrai.
Au revoir Chloé.
Salut Chloé.
Elle part au Cambodge.
Merci d'être passée. Elle part au Cambodge, voilà. Alors pour le blog de Elsa, si tu veux le redire, ou j'ai le lien sous les yeux.
Ouais, j'imagine qu'il sera peut-être écrit sur votre site, ça s'appelle Philomel.
Voilà, philomelblog.wordpress.com. Voilà, donc, les cyprinettes, c'est fini. Je vous fais... Oui. Mais alors, si tu veux, si t'as loupé, il y a la rediff.
Ah.
Et sinon, il y a le podcast.
Sur radiolarzac.org.
C'est ça. Merci, Marie. Merci, Radio Larzac. Merci, Elsa, d'être venue.
Merci à vous.
Génial. Je vous embrasse. Merci, Chloé, d'être là.
Passé.
Merci, Émilie. Et puis, au mois prochain.
Le temps de la colère.